Bon.
On va y aller. Hein.
On va y aller.
Répétition, inconscient, moi, culpabilité, lapsus,
désir, psychose, phobie, sexualité,
complexe, lapsus, culpabilité,
moi, culpabilité, complexe,
moi, inconscient,
lapsus,
répétition,
sexualité,
complexe,
désir, psychose, culpabilité,
désir, moi,
répétition,
inconscient, sexualité, complexe,
culpabilité,
lapsus, culpabilité,
lapsus,
moi,
sexualité,
répétition,
psychose,
sexualité,
complexe,
lapsus, culpabilité, moi, inconscient, répétition. Ah, je vais dans l'autre sens?
Oui, d'accord, ok.
MDL, les mots délivrés des livres. Pour écouter autrement.
Sans faire trop sérieux non plus.
Faut quand même être un peu sérieux
okay.
Des fois.
Ok.
Sur la trace des mots.
Sur les chemins de notre intériorité.
Une ouverture éclair.
Sur des livres qui se livrent.
Mais qui se lisent aussi.
Olivier Lostis de l'Esperluette.
Gabriel Seban, qu'on espère net. Bonjour Olivier.
Bonjour Gabriel.
Alors, aujourd'hui, quel mot à tes branches ?
Eh bien, c'est le mot inconscient qu'on illustrera avec le jour de l'émancipation, la modification et Palief. Alors, la phrase du jour, c'est « L'inconscient ne connaît ni le temps ni la contradiction ou la négation. » Et l'inconscient est structuré comme un langage. Ces deux phrases-là sont de Jacques Lacan. Alors, le jour de l'émancipation de Wayne Grady aux éditions du Serpent à Plumes, ce livre qui évoque les années 30 à 50 aux États-Unis, au travers d'un jeune homme blanc mais né dans une famille noire, enfin métisse. Dès l'enfance, il ne voudra pas qu'on le considère autrement que comme un homme blanc à part entière. Il ira jusqu'au mariage, sans que sa femme ne découvre ses origines. Pourtant, le grand amour de sa vie est une femme, une autre femme. Blanche également, mais qui possède clandestinement un cabaret de musique jazz noire. Il ne le découvrira que plus tard, alors qu'il est lui-même musicien pourtant. C'est une histoire tout à fait fascinante et parfaitement crédible d'ailleurs, qui montre comment on peut ignorer ce qu'il est pourtant presque impossible d'ignorer. Il aime cette femme parce qu'elle aime ce qu'il est et qu'il ne s'avoue pas être. Il patauge dans une série de confusions, dans des contradictions, mais tout tient très bien dès lors que ce qui est inconscient et le fait agir et ressentir ne passe pas du côté conscient. Simplement, il agit et aime ce qu'il dit ne pas faire et ne pas aimer. Voilà pour la négation ou la contradiction.
Alors, est-ce qu'on porte une image de soi très différente de celle qu'on nous reconnaît ?
Alors, une image de soi très différente de celle qu'on nous reconnaît, c'est-à-dire que le problème, c'est que dans l'image qu'on nous reconnaît, on ne fait à nouveau que reconnaître cette image. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour le coup. On a une propre perception de nous-mêmes, certainement. Elle est forcément confrontée à celle que les autres peuvent avoir de nous-mêmes. Le problème, c'est qu'on va souvent imputer à l'autre une perception de nous conforme à ce que nous pensons de nous-mêmes, alors que ça n'est pas du tout forcément celle qui a cours pour l'autre.
Et est-ce que c'est la résultante du fait de vouloir absolument être aimé ?
Certainement. On peut le dire comme ça. Ce qu'on veut voir aimer en nous par l'autre, c'est certainement ce qu'on aime déjà nous-mêmes comme image. C'est-à-dire qu'il y a une problématique un peu narcissique là-dedans. On ne peut être aimé... on dit souvent on n'est aimé que pour soi-même. Bon, oui, sauf que soi-même n'est pas forcément toujours aussi stable, aussi, aussi fixe qu'on ne croit.
Et il me semble qu'on a une manière de plier la réalité pour que finalement notre psychisme s'y retrouve.
Ben oui, mais d'ailleurs, il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par réalité, parce que la réalité, ce n'est pas le réel. Le réel, c'est la chose en soi, hein, ou le phénomène en soi. Le problème de la chose en soi, c'est qu'on ne peut pas en dire grand-chose, ça nous résiste un tout petit peu. Donc pour pouvoir justement concevoir la chose, il faut en parler, il faut en dresser une représentation, une conception. Et ça, c'est déjà de l'imaginaire, et c'est pourtant ça, la réalité.
Et est-ce que ce processus échappe à la conscience ?
En partie, bien sûr, simplement, les choses se passent aussi dans la langue. C'est-à-dire que souvent, quand on parle, on se surprend soi-même. Il y a un livre formidable, j'en parlais tout à l'heure en introduction, on va approfondir un tout petit peu, c'est La Modification de Michel Butor aux éditions de Minuit. Alors d'abord, c'est bien de parler de Michel Butor parce qu'il vient de mourir, et puis son œuvre est parfois aujourd'hui un peu oubliée du grand public, alors qu'elle mérite d'avoir toujours autant de succès qu'elle en a eu dans les années 60-70. Parce qu'il invente une nouvelle forme de narration, et puis il a, avec cette nouvelle forme de narration, influencé quantité d'auteurs d'aujourd'hui. D'ailleurs, quand on questionne les auteurs, très souvent ils nous disent à quel point Michel Butor compte dans leur influences, disons. Alors le livre là reflète ce qui se passe dans la tête d'un homme le temps d'un voyage en train. Alors, ce long fil de pensée va progressivement infléchir ce que cet homme avait décidé de faire de sa vie. En fait, ce qui nous intéresse ici, c'est que le langage, celui qui se développe, se déroule, c'est-à-dire la parole intérieure, celle qu'on se raconte à soi-même, accompagne nos vies en parallèle de ce que nous faisons, en permanence, comme un deuxième texte par rapport à ce qu'on dit ou ce qu'on vit. Alors, le langage fonctionne avec des connexions avec l'inconscient, bien sûr, simplement parce que l'inconscient, lui aussi, fonctionne comme le langage. Ce deuxième discours-là, qui est parallèle à notre premier discours, avec des proximités de mots, avec des associations d'idées construites sur les mots et les rapprochements de mots. Et que, notamment, le désir passe par aussi une manière de dire, par exemple, ne serait-ce que pour le partager. De ce fait, c'est toujours du côté de la parole que l'on va pouvoir s'approcher de l'inconscient. C'est en cela que la démarche est aux antipodes, par exemple, de la méditation, la démarche de parler, de se raconter. Dans ce dernier cas, on cherche à apaiser, dans le cas de la méditation, pardon, on cherche à apaiser, dans le cas de la parole, on cherche à conquérir des territoires inconscients. On cherche à lire notre propre désir, et c'est en parlant que ça se fait. Qui ne s'est pas rendu compte de quelque chose d'important dans le dialogue, pas forcément avec un psy, mais dans le dialogue avec un ami, par exemple, ou même avec des inconnus, parfois.
Mais est-ce que la pensée transite nécessairement par des mots pour devenir émotion ?
Non. C'est-à-dire que l'émotion, on peut plus la rapprocher de ce qu'on peut appeler en psychanalyse la pulsion, par exemple. Au contraire, on va prendre l'exemple du tout petit enfant. Le tout petit enfant, c'est un être complètement pulsionnel, il ne parle pas, et les pulsions, les émotions sont des choses qui sont très très violentes et qui peuvent laisser d'ailleurs des traces toute une vie, jusqu'à ce qu'elles soient mises en mots. C'est-à-dire que c'est plutôt pour apaiser, pour s'approprier nos émotions qu'on les met en mots, pour y survivre en quelque sorte.
Et penses-tu qu'il s'agisse de construire ou d'inventer de nouveaux mots pour de nouvelles velléités ?
Pas forcément, parce que d'abord, les néologismes souvent sont le fait de la folie. Ça peut être très intéressant, il y a des grands poètes du côté de la folie qui ont effectivement produit énormément de néologismes. Le paradoxe, c'est qu'on les comprend fort bien. Mais justement, le langage, c'est ce qui va nous permettre d'enserrer l'infinie possibilité des pulsions et des émotions, en quelque sorte. Le langage, lui, est fini, d'une certaine manière. D'ailleurs, on a souvent l'impression d'avoir du mal à exprimer ce qu'on ressent. Et c'est dans ce travail-là, dans ce vrai travail, puisqu'on a du mal, donc on travaille, on élabore quelque chose, c'est dans ce travail d'élaboration qu'on va s'approprier et pouvoir vivre le plus sereinement possible les émotions qui nous traversent.
Donc le langage est aussi désir, et à ce titre-là, relativement intime.
Le langage, c'est quelque chose qui est partagé. Ce qui est intime, c'est la parole, c'est-à-dire que c'est ce que chacun de nous va pouvoir faire avec le langage, justement. Alors il y a une très grande intimité à parler autour de nos émotions, de nos pulsions, surtout celles qui nous viennent de l'inconscient, de nos désirs les plus profonds, bien entendu, oui. Alors on parlait justement de la folie, et puis il y a des choses qui peuvent se passer un petit peu autrement. C'est-à-dire que dans la folie, souvent, ce qui se passe, c'est que ce qui nous résiste, ce qui est compliqué, ce qu'on n'arrive pas à absorber, est complètement rejeté à l'extérieur, dans la réalité. Et c'est la réalité qui nous revient à la figure. Par exemple, dans le livre « Palief » de Philippe Hanoc, aux éditions Kidam, on suit Lief, le héros, le personnage central du livre, appelé pour devenir précepteur de jeunes enfants dans une famille bourgeoise. Lief ou pas Lief, on retrouve la question de la négation, mais parce que le héros semble ne pas parvenir à être identique à lui-même. Il est clivé, en partie, à moitié, c'est tout l'ensemble de la maisonnée, de ce qu'il a à y faire qui devient flou. Il ne comprend pas bien, nous non plus, lecteurs d'ailleurs, nous ne comprenons pas bien, sauf une chose, les enfants dont il doit être précepteur devraient être là. Et ils ne sont pas là, ils sont en retard. Alors il fait des trucs, il s'occupe à autre chose, il ne fait pas grand-chose. Ici, la contradiction ou le clivage, l'opposition, on n'arrive pas à l'identifier, sauf par une absence anormale. Et pourtant, il ne voit personne pour s'étonner de cette absence anormale autour de lui. On apprendra que pourtant tout le monde est concerné, mais que lui a occulté toute référence à ce qui se dit ou se fait à propos des enfants. Il a effacé tout ça, sauf leur absence. Et c'est l'absence des enfants qui est centrale. Elle agit très fort sur l'absence de Lief à lui-même, l'absence d'activité, une existence douteuse, floue, à très basse intensité. On a l'impression qu'il s'efface ou qu'il est effacé. Le lecteur ne comprend pas pourquoi, mais il sent bien que quelque chose agit qui pourrait être dans un roman l'attente qu'il se passe quelque chose. Dans ce roman, c'est l'inverse. Ce qui est fort ici, c'est en fait qu'il sait passer quelque chose. Et que c'est ça qui agit, dans l'ignorance du lecteur comme de Lief lui-même. Pourtant, ce dernier ne l'ignore que consciemment. L'inconscient chez lui sait, et c'est même lui qui mène la danse.
Alors là, on est en face d'un personnage dont la fixité de l'image se conjugue à un flou identitaire dont dépend quand même une perception de la responsabilité. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est prisonnier de la responsabilité qu'on a vis-à-vis des autres?
C'est toute la question à laquelle les experts sont confrontés lors de procès pour meurtre, par exemple, lorsqu'il s'agit de déclarer ou pas la responsabilité de l'accusé. Effectivement, est-ce qu'il était conscient ou pas? Est-ce qu'il était lui-même ou pas? Est-ce qu'il était délirant ou pas? C'est très difficile parfois. Alors, le mot délivré du sens, Gabriel.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là. Elle est juste à l'intérieur de cette parenthèse. De cette parenthèse. Un truc là qui claque. De. Ne vous inquiétez pas, ça repart.
J'ai rencontré par hasard un vieux fantasme de puissance sans limite, auquel rien ne peut résister. Il remonte à mon enfance, quand je pouvais commander à l'invisible d'engloutir les démons féroces qui m'inquiétaient, quand je me demandais, et que je demandais surtout à ma mère, d'être nourrie et soignée sans défaillance, aimée sans compter. Et puis, l'image de cette autre scène s'est inversée, parce que je suis devenu plus grand, si ce n'est adulte. Elle se reflète maintenant dans un miroir qui me ferait croire que la société met à ma disposition mon inconscient, parfaitement accessible lorsqu'il s'agit de consommer, reléguant l'image de ma conscience au fond d'un tiroir dans lequel elle ne gênera plus personne. Alors, j'ai craqué. Je suis redevenu enfant.
Voilà, rendez-vous le mois prochain.
Que les mots vous portent bien.
À bientôt.